Bonjour tout le monde, bienvenue au Guide de l'auto, édition du 28 mars 2020. Oui, on est encore là.
On lâche pas.
Studio désinfecté, Germain est à l'autre bout du studio.
Moi aussi, je suis désinfecté.
Même si le studio est grand comme un garde-robe, on est capable de se distancer un peu, donc c'est pas pire. Évidemment, pas le choix de parler des impacts du COVID-19 actuellement sur l'industrie automobile.
C'est juste ça qui se passe de toute manière.
Et il y a beaucoup d'incompréhension face à ce qu'on peut faire, face à ce qu'on ne peut pas faire par rapport à l'industrie automobile. Est-ce qu'on peut faire réparer son véhicule, faire réparer la carrosserie? Est-ce qu'on peut s'acheter un véhicule neuf ou un véhicule d'occasion? Bien, on va avoir en deuxième partie de l'émission Robert Poetti, directeur général de la CCAQ, qui va être avec nous un peu plus tard pour répondre à ces questions-là et un peu démystifier là, les interrogations qu'on peut avoir, parce que là, évidemment, ça sort de tous bords, tous côtés. Qu'est-ce qu'on peut, qu'est-ce qu'on peut pas faire?
Il y a eu des évolutions même cette semaine, beaucoup d'incompréhension.
On avait fermé des ateliers de carrosserie. Ils ont réouvert parce qu'on a changé d'idée sur quelle était la définition des services essentiels. Acheter un véhicule, on peut maintenant le faire, mais il y a une procédure à faire. Donc, c'est intéressant.
Puis un peu comme la semaine passée, l'émission est enregistrée la veille de la diffusion, donc le 27, finalement. L'actualité va très, très vite. Fait que ça se peut que si vous écoutez l'émission dans 2, 3, 4, 5 jours, une semaine, les choses ont changé, finalement.
Ouais, voilà, exactement. Bon, on va commencer par quelques actualités local, en mentionnant que les péages de l'autoroute A25 et A30 sont maintenant abolis.
Oui, voilà. Donc, l'autoroute 25 là, qui relie Montréal et Laval dans l'Est, si on veut, c'est ouvert librement. Puis même chose pour...
Moi, je vais aller m'amuser aujourd'hui faire 28 passages aller-retour, juste pour en profiter parce que...
Pour notre argent, c'est important.
Trois pièces
à la fois, faut les compter.
Oui, puis on va pouvoir le faire plus rapidement que jamais parce qu'il n'y a pas un chat sur les routes.
Voilà.
Et d'ailleurs, je salue tous les chroniqueurs circulation du Québec qui actuellement pourraient mentionner un achalandage dans le service à l'auto d'un restaurant Tim Hortons.
C'est à peu près tout ce qui est achalandé en ce moment.
C'est incroyable. Les routes sont vides.
Jusqu'à il y a quelques jours, il y avait encore beaucoup de chantiers d'ouvert, mais là, là c'est même plus le cas.
Non. C'est vraiment vide. Donc, puis ça nous fait réaliser à quel point... À quel point on a des courtes distances à parcourir qui deviennent interminables. Moi, je demeure à 25 km du bureau ici au centre-ville, mais sur la rive nord de Montréal. Et des fois, ça peut me prendre 90 minutes, 1h45 pour me rendre à 25 km de distance. Et là, je le fais en 25 minutes.
Tout à fait.
C'est incroyable.
Moi, tu vois, c'est un trajet qui me prend en ce moment là, un petit peu moins de 20 minutes. Ben, d'habitude, c'est au-dessus de 40 là, à la même heure. Donc, puis je suis déjà sur l'île, là. Fait que voilà.
Mais en même temps, je te dirais aussi que de pouvoir circuler librement sur Christophe Colomb aujourd'hui pour m'en venir au bureau... Écoute, la
ça
rue...
Ça t'a fait réaliser à quel point c'était endommagé.
Elle est détruite, mais complètement, cette rue-là. C'est épouvantable.
Puis si tu prends Papineau, c'est pas mieux.
Bien, au moins, on a corrigé quelques trucs sur Papineau. Là. Bon, on a aussi trouvé la bonne idée d'abolir une voie pour que la route se magane moins rapidement. Mais ça, c'est...
Ah, c'est pour ça qu'ils ont coupé la voie. Écoute, je comprends.
Un jour, on aura peut-être la vérité.
Fait que autoroute 25, autoroute 30, tout ça est ouvert librement. Donc, vous pouvez passer sans qu'il y ait de facturation.
Oui, on a aussi aboli
c'est
de façon...
C'est jusqu'au 13 avril, hein, donc c'est limité. Peut-être que ça va être prolongé si jamais on se rendait compte que si la crise s'étendait.
Ouais.
Mais pour le moment, c'est jusqu'au 13 avril seulement. Et sinon, autre nouvelle dans l'industrie automobile, la production de la Polestar 2 a commencé en Chine. Donc, une nouvelle qui n'a rien à voir avec le virus, avec la pandémie. Apparemment, la situation s'est améliorée en Chine au point de reprendre certaines activités, dont la production de la Polestar 2.
Serait-ce le début d'une bonne nouvelle?
Peut-être.
Ou serait-ce une imprudence de la part des Chinois qui veulent quand même fabriquer... Faut mentionner que ça sera la première voiture 100% électrique commercialisée par, bon, je dis Volvo, là, parce
que c'est une sous-branche de Volvo.
Puis encore aujourd'hui, je me permets de te dire que la marque Polestar... Ouais. J'ai bien de la misère à y croire. Ce plan d'affaires-là me laisse très perplexe et j'ai hâte de voir comment on va commercialiser ça avec des boutiques
Des boutiques qui sont pas des concessionnaires, mais qui appartiennent à des concessionnaires. Tu sais, c'est...
Écoute, là, c'est pas en mettant un magasin dans un Carrefour Laval puis aux Galeries d'Anjou que tu vas réussir à vendre des voitures. Là. Je m'excuse. Là. On verra ce que ça va donner, mais à tout le moins, cette voiture-là, qui semble très intéressante et qui dont le prix de départ sera d'autour de 70 000 $ voiture 100 % électrique.
Oui, puis on parle là, tu sais, de 400 chevaux, 500 km d'autonomie. Ouais. Tu sais, c'est des données intéressantes.
Ben, il y a une belle gueule aussi, ça faut le dire. Mais lorsqu'on s'installe à bord, d'abord, c'est très épuré.
Tu as pris place dans ce véhicule-là?
Oui, j'ai pris place dans ce véhicule-là. C'est très épuré et c'est authentiquement Volvo. Là.
Oui.
Et c'est donc la distinction entre Polestar et Volvo n'existe pas vraiment. Je pense aussi qu'il faut, malheureusement, si on continue dans les mauvaises nouvelles, parce que ça, c'en était pas une. Bon, on peut peut-être mentionner aussi que le dévoilement de la Genesis G80 se fait de façon officielle, mais en ligne.
Oui, comme Hyundai a fait avec l'Elantra, finalement, la semaine passée.
Avec l'Elantra, voilà. Mais on a appris, malheureusement, le retrait des voitures du Grand Granby International. Donc, les voitures anciennes de Granby n'auront pas lieu cette année.
On va revenir rassemblement en fin d'émission.
Ouais, un gros rassemblement qui attire 35 000 personnes, ça n'aura pas lieu. Le Grand Prix du Canada, lui, ne sera pas annulé.
Oui, voilà. Donc, c'est ce qu'a dit le promoteur, là, François Dumontier, a dit que, s'il devait être reporté, ce serait une chose, mais... être annulé, ça n'arrivera pas. C'est ce qu'il a mentionné. Et on devrait savoir là, sous peu si l'événement va avoir lieu en juin comme ça devrait, donc le 14 juin. Mais,
est-ce que le Grand Prix de Montréal est capable de se passer d'une année sur le plan financier?
Bien, on s'en est déjà passé d'une édition, si je me rappelle bien, au milieu des années 2000. Ça a été un coup très difficile.
Oui.
Parce que quand tu coupes les habitudes des gens, voilà. Hein, donc, le Grand Prix pourrait être là, repoussé peut-être là, au mois de septembre, par exemple.
On verra. J'ai l'impression que le mois de septembre va être bien achalandé.
Oui, voilà. Si tout ce qui se devait se passer entre le mois de mars et le mois de juin se passe au mois de septembre, on va courir un peu partout. Et même, tu sais, tu dis, est-ce que le Grand Prix de Montréal peut se passer d'une année? Est-ce que la ville de Montréal peut se passer
les retombées économiques de cet événement-là.
En hôtel, en restaurant, combien il y a de touristes? Tu le sais, à chaque année, l'entreprise familiale loue un emplacement en plein centre-ville pour vendre des voitures miniatures.
Tu as toujours les hurlus-berlus qui viennent se plaindre que des voitures de course, ça pollue.
Circuit. On est d'accord.
Alors, pendant qu'il y a
tellement de touristes, Antoine...
Non, mais moi, ma réponse à ça, elle est simple. Ouais. Pendant qu'il y a 20 voitures qui tournent sur un circuit, il y en a 45 000 qui ne bougent pas dans la ville.
Oui, puis il y a plein de monde qui prennent le métro pour se rendre, qui ne prennent jamais le métro dans leur vie non plus. Là. Mais il y a tellement de touristes. C'est le moment de l'année où je vois le plus de touristes. Jamais je vais parler français dans cette fin de semaine-là parce que je vais parler anglais en masse, espagnol puis chinois s'il faut. Il y a énormément de touristes.
Ton chinois est assez aiguisé?
Oui. Okay. Si le Grand Prix devait être annulé, même si c'est pas dans les plans, je pense que ce serait extrêmement difficile pour toute la ville.
Les 500 000 d'Indianapolis, aussi, c'est un gros événement. Ça sera reporté.
Oui, exactement. Donc, c'était prévu pour le 24 mai, on s'entend. Là, c'est comme après-demain, ça. Ouais. Là. Puis, on a bien vu cette semaine que la situation était très, très, très complexe aux États-Unis avec la gestion de ce virus-là. Donc,
par un président qui en est un lui-même. Si
Oui. On est bien d'accord. Et donc la course a été reportée au 23 août. Donc, est-ce que tout va être réglé d'ici là? J'en ai aucune idée. Le même week-end, on aurait aussi des courses NASCAR sur ce circuit-là. Et on sait bien que...
C'est pas la même clientèle.
C'est pas la même clientèle. C'est pas non plus le même, en bon français, branding. Donc, je suis pas certain que tout ça peut très bien se côtoyer.
Écoute.
Mais ça arrive très rarement là, que ces deux types de voitures de course se retrouvent ensemble. Donc, on est d'accord, là, ce sera pas en même temps, mais toujours est-il que le même week-end...
Non, si c'était en même temps, ça serait... En fait, j'aimerais
ça savoir ça. Ça ferait un beau spectacle,
oui,
mais
ça, c'est sûr.
Toujours est-il que IndyCar et NASCAR, au même endroit, la même fin de semaine, ça va être spécial.
Ouais.
Véhicule de la semaine, Antoine. Mazda CX-30 dans ton cas?
Mazda CX-30 dans mon cas. Écoute, moi, j'avais conduit ce véhicule-là du côté de la Californie lorsqu'on l'a dévoilé. Et c'est pas compliqué. Le Mazda CX-30 est à la Mazda 3, ce que la Subaru Crosstrek est à l'Impreza. Donc, tout ce qui est sous la carrosserie du CX-30, ouais, c'est une Mazda 3. À l'exception
que ce qui n'est pas une mauvaise chose.
À l'exception que le véhicule est surélevé. Ouais. Okay? Trois versions. Les deux versions, donc GS, GT, moteur 2.5, version GX de base avec le moteur 2 litres. Automatique seulement. Rouage intégral optionnel, sauf dans le cas de la GT. Bon, comme la Mazda 3, on a amélioré de beaucoup la finition intérieure, la présentation intérieure. On est à jour sur le plan technologique. Le look est quand même assez distinctif. Moi, je pense que c'est totalement réussi. Mais ça demeure un véhicule peut-être un peu plus étroit que la moyenne.
Mais plus spacieux quand même que le CX-3.
Ah oui, oui.
On n'est pas là, là.
Puis chez Mazda, ce qu'on dit, c'est que le CX-3 demeure au catalogue. C'est vrai. Il y a des CX-3 2020 qui existent. Mais comprenez que le CX-3, là, c'est un succès local. Il n'y a que les Québécois qui achètent ça. Les ventes... je retourne aux chiffres de 2018, là, parce que j'ai pas ceux de 2019 en tête.
On va le pardonner.
Mais pour vous donner 2018, on avait vendu 12 000 CX-3 au Canada, 6 000 au Québec.
Ouais.
Et 19 000 CX-3 aux États-Unis.
Donc, ça n'a pas rapport.
Donc, normalement, si tu vends 120, c'est-à-dire 12 000 CX-3 au Canada, tu en vends 120 000 aux États-Unis.
Tu appliques la règle du x10, puis généralement, là, c'est ce qu'on peut observer.
Près ça. Et tu vois, le CX-3, les concessionnaires Mazda aux États-Unis n'en commandent même plus. Puis, attendez-vous à ce que pour 2021, il n'y en ait plus, tout simplement. On va y tirer la sauce ici au Québec parce qu'on est capable de garder le CX-3 comme modèle d'entrée de gamme pas cher.
Voilà,
on va probablement
voilà.
liquider à la fin, sous la barre des 20 000 $ le modèle d'entrée de gamme.
Ce qui serait loin d'être une mauvaise stratégie.
Bien, tu sais, en même temps, un modèle à traction pourrait venir rivaliser avec ce qu'on propose chez Nissan avec le Kicks, le Hyundai Venue, ces trucs-là.
C'est comme un nouveau sous-segment.
Bon, parce que c'est un modèle de vieille génération. C'est pas un modèle qui est dépourvu de qualité, mais on est à l'étroit là-dedans, ça n'a aucun sens. Puis c'est pour ça que les Américains ne l'achetaient pas.
On est d'accord.
Parce que tu ne peux pas « enlarger your size » dans un restaurant comme chez Wendy's aux États-Unis puis penser que tu vas mettre ton 2 litres de liqueur dans la console.
Ça
c'est impensable, ça
bon
marche pas. C'est trop petit ce véhicule. Excuse-moi l'expression, mais j'aime tellement ça quand t'arrives dans un restaurant de restauration rapide aux États-Unis puis que systématiquement on te propose la frite de 3 livres puis la liqueur de 2 litres. Moi, je trouve ça incroyable. Enfin, bref. Alors, disons que c'est à contre courant avec l'habitude des Américains et c'est pour ça que le véhicule n'a pas connu de succès. Est-ce que le CX-30 va se vendre plus aux États-Unis? Honnêtement, je pense pas.
Non, parce que Mazda n'est pas très fort aux États-Unis.
Un, puis deux,
plus.
Je veux dire.
Au Québec, on envoie des tonnes là, depuis 20 ans des Mazda, puis c'est un beau succès au Québec.
Oui, mais les ventes ralentissent.
Les ventes ralentissent, là, avec la 3, entre autres. Mais aux États-Unis, c'est pas...
Est-ce que les ventes de la Mazda 3 ralentissent sérieusement, on parle de presque 30 % de baisse de
vente. Le modèle est tout neuf, là.
Celle du CX-5 augmente, mais légèrement. Donc, le chiffre total de vente Mazda... Puis, je te parle pas de la Mazda 6 qui se vend plus du tout.
Quoi? Elle existe encore?
On ne peut pas se fier sur les ventes du MX-5, on s'entend.
On est d'accord.
Et le CX-9, c'est un joueur marginal en termes de volume dans le segment des 7 passagers. Alors, les chiffres de vente de Mazda au total ne vont pas très bien. Et la stratégie de Mazda, c'est on nous dit, on va vendre un peu moins de véhicules, mais on va faire plus de profit par produit.
Ouais.
Et on va aller chercher une clientèle plus premium que ce qu'on avait.
C'est facile à dire, là.
Oui, mais là, on se rend compte que ça ne marche pas.
Il faut la convaincre, là, la clientèle qui va payer 46 000 pour un Mazda CX-5. Là. Il faut la convaincre.
Bien, ironiquement, c'est probablement le seul véhicule chez Mazda avec lequel on réussit à aller chercher une clientèle un peu plus premium parce qu'un CX-5 signature, ça se vend quand même bien.
Okay.
Mais on ne réussit pas à séduire beaucoup d'acheteurs avec une Mazda 3 tout équipée.
À 30 quelques
Est-ce qu'on
dollars,
va réussir
là?
À le faire avec le CX-30? Moi, je pense qu'au Québec, ça va connaître un super succès, comme la Crosstrek. Je pense que c'est un véhicule qui est vraiment bien adapté à nos besoins. Mais encore une fois, je le mentionne, on est un peu à l'étroit. moins que dans le CX-3, mais on se sent un peu à l'étroit, on se sent un petit peu écrasé dans le véhicule. Et moi, je te dirais que c'est un point qui m'agace un peu. J'adore cependant la position de conduite, la qualité de finition, la qualité de fabrication du véhicule. Avec le moteur 2.5, ça a du nerf. Ça, c'est un avantage.
C'est un bon moteur, ça, franchement.
C'est un avantage par rapport à la compétition, surtout par rapport à la Crosstrek, qui a un moteur 2 litres de 152 chevaux. Là, on va arriver prochainement chez Subaru avec le 2.5. Ça va faire du bien.
Enfin.
Mais chez Mazda, on va pouvoir obtenir un 2.5 à prix raisonnable. Puis c'est le fun à conduire. Disons que c'est pas mal plus inspirant qu'un HR-V, mais moins spacieux. Alors, je veux dire, ça va dépendre de quel sont...
Tu peux pas tout avoir.
Mais moi, j'ai l'impression que le CX-30 sera un succès beaucoup plus canadien qu'américain. Mm-hmm. Et pour l'entreprise, ça va être un problème parce qu'aux États-Unis, on va continuer à vendre des CX-5, des CX-9 et la balance ne se vendra pas du tout. Mazda est une marque qui est sur son déclin aux États-Unis, malheureusement. Et c'est un peu la même chose au Canada, mais pour des raisons différentes. C'est vraiment la Mazda 3 qui a été le pendant vers le bas parce que la Mazda 3, c'était une voiture à volume il y a seulement quelques années. Pour son prix attrayant, pour son agrément de conduite, mais les habitudes des acheteurs ont changé.
C'est dommage parce qu'elle est meilleure que jamais, finalement.
Elle est meilleure que jamais. Par contre, il y a beaucoup de gens qui n'apprécient pas le nouveau look.
Pour la version à Hayon, parce que la berline, elle, reste...
plus conventionnelle. Et d'ailleurs, pour la première fois, on vend un peu plus de berline que de modèle hatchback. Donc, ça prouve un peu. Et moi, j'aime beaucoup le look du modèle hatchback, quoique sa visibilité est un problème.
Non, le look ne me gêne pas.
Mais j'aime beaucoup le look de cette voiture-là, différent.
Oui.
Pas mal plus inspirant que celui de la Forte 5, par exemple, qui est très standard, si tu veux, à mon avis.
On est d'accord.
Mais c'est pas tout le monde qui mord à l'hameçon, évidemment. Toi, de ton côté, tu as conduit un véhicule. Là, on va hausser le ton pour parler, pour qu'on s'entende parler.
Oui,
le Mitsubishi RVR.
Oui.
Le pas du tout bruyant Mitsubishi RVR.
Bruyant à tous les points de vue. Autant le véhicule est mal insonorisé, mal isolé, mais le véhicule lui-même est bruyant. Des bruits de suspension. Il y avait beaucoup, là, en bon français, de bruit de caisse, finalement. Il y en avait de partout. En termes de finition, c'est vraiment, vraiment ordinaire comparé à la compétition.
Ah ben oui.
On n'est pas dans le game. Là,
il
bon
faut
français.
Comprendre que ce véhicule-là utilise la plateforme de la Mitsubishi Lancer qui a été lancée en 2007.
Ouais.
C'est la même mécanique, la Lancer. Ouais. On a lancé le RVR en 2011. Depuis, on a fait deux ou trois retouches esthétiques. Et cette année, la nouveauté, c'est ça, dans le fond.
On a refait
le museau avant.
Sur le plan mécanique, ça reste identique. Puis, il n'est pas donné... Le RVR.
Rapport équipement-prix n'est pas favorable du tout. Tu t'en vas chez Hyundai, c'est beaucoup plus alléchant.
Je ne sais pas si en concession, là, on te présente des rabais, des rabais du printemps, le rabais de l'été. Est-ce qu'il y a un rabais pour chacune des saisons? J'en ai aucune idée. Mais pour une version à roue motrice avant, qui est totalement inintéressante, parce qu'une des qualités de Mitsubishi, c'est peut-être justement son rouage intégral.
Oui.
Ben, c'est 25 000 pour un RVR à roue motrice avant. Si on veut une version all-wheel drive, ben, il faut aller à 20, on est rendu à 27 500.
Ouais.
Et la version que j'avais, elle, 36 000 $ C'est exagéré. Bon, c'est une version GT,
personne va acheter.
Mais ça reste un véhicule très ordinaire dans l'ensemble. Il n'y a rien qui... Tu sais, le bouton du siège chauffant, il fallait peser une fois, deux fois, trois fois pour que ça fonctionne. Pas du siège chauffant, du volant chauffant.
On a ajouté le volant chauffant dans cette version, d'ailleurs, et on nous l'a dit.
Ça. Ben, on l'a ajouté, mais ça fonctionne très mal. Tu pèses, puis il n'y a rien qui se passe. Il faut que tu repèses trois fois pour que ça... En tout cas...
Bon, rendu là, c'est un détail.
J'ai le plafonnier qui est tombé. Franchement, ça fait dur, là. J'ai essayé de le replacer, il est retombé une deuxième fois. C'est du bricolage,
mais Mitsubishi,
c'est tout croche.
Ironiquement, pour avoir parlé à des gens à l'interne chez Mitsubishi, qui me disaient à mot couvert, écoute Antoine, on a changé des lumières, une grille, un capot, puis les ventes sont reparties de plus belle.
Ben,
c'est de loin le véhicule le plus vendu. On en vend beaucoup plus que l'Eclipse Cross et l'Outlander. Puis c'est un véhicule...
Mais ça fait dur comme véhicule.
Mais c'est un véhicule qui, malgré son côté très archaïque et complètement dépassé, affiche une bonne fiabilité. Et Mitsubishi annonce présentement une garantie prolongée, une garantie complète de 10 ans écoute, sur ces véhicules. Donc, par choc, d'un pare-choc à l'autre. C'est un sérieux incitatif pour acheter un véhicule. Pour quelqu'un qui cherche pas...
Qui va avoir la tête en paix, l'esprit tranquille.
Parce qu'un Mitsubishi, on dira ce qu'on voudra, c'est fiable, ça coûte pas cher d'entretien, puis c'est bien garanti. Fait que ça, c'est des points...
Mais il faut vivre avec un tracteur.
Puis je veux dire, sans compter que la consommation d'essence, c'est pas sa plus grosse qualité non plus. Là. On parle d'une vieille mécanique qui n'est pas particulièrement frugale, si tu compares justement au CX-30, qui est un rival.
Ouais. Qui est un véhicule plus moderne. Là.
Légèrement.
Légèrement.
Légèrement. Alors, voilà.